CH et les Red Wings de Détroit. Dans le junior majeur, l'Armada de Blainville-Boisbriand visite ce soir le Drakkar de Baie-Comeau. Ça va assez bien pour le Drakkar qui mène 5-0 avec 9 minutes à faire avant la fin du match. Et les Huskies de Rouyn-Noranda accueillent les Voltigeurs de Drummondville. C'est l'égalité actuellement 3-3. La troisième période est en cours.
Avec Mario Tremblay.
Radio X.
Il est 21h43 minutes. En cette soirée du mardi, on fait la radio en direct jusqu'à minuit. C'est le 25 février. Hey, je vais vous dire, en passant, il y a certains collègues qui en ont fait mention. On a une nouvelle application Radio X maintenant disponible depuis quelques heures pour ceux qui nous écoutent un peu partout au Québec, au Canada, sur la planète et qui utilisent cette application-là. Ben, je vous invite à faire la mise à jour. Ça vaut vraiment la peine. On a amené pas mal d'améliorations. Je regardais ça tantôt. Entre autres, vous avez accès directement aux extraits avec cette nouvelle application-là. Vous avez aussi accès au courriel de façon directe, donc plus besoin nécessairement de taper l'adresse. Et vous avez accès au téléphone également. Alors, c'est l'application Radio X maintenant disponible pour Android plutôt. Et aussi sur iPhone, disponible dans les magasins dont je me souviens plus du nom, Google Play, et l'autre, je m'en souviens plus. Alors, mais vous savez de quoi on parle, évidemment, mais je m'adresse particulièrement, oui, aux gens qui ne l'ont pas encore, cette application-là, mais surtout aux gens qui l'ont et qui peuvent maintenant faire une mise à jour, qui en vaut la peine. 21h44, donc ce soir, on parle de maladies rares, de maladies orphelines. On va s'éduquer pas mal ce soir. On va apprendre des choses qu'on savait pas qui existaient. Je vous présente Geneviève Côté. Bonsoir Geneviève.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Oui.
Bon, Geneviève, vous, votre fils est atteint de ce qu'on appelle le X fragile.
Oui, c'est ça.
Essayez de nous définir ça, là. Qu'est-ce que c'est que le X fragile?
Je vais essayer de faire un résumé oui. De quelque chose qui est assez complexe. En fait, le X fragile, c'est une anomalie d'ADN sur une partie du chromosome X. Qui fait en sorte que il y a un nombre de répétitions trop élevé dans les nucléotides qui font qu'il y a un gène qui s'éteint, qui ne fonctionne plus. Mm-hmm. Puis ce gène-là est responsable d'émettre une protéine qui est la FMRP, qui est une protéine qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est une protéine qui était vitale dans le fonctionnement du cerveau, le développement.
Mm-hmm. OK, ça, vous saviez pas ça avant,
non,
vous non plus.
Pas
là.
Ça avant même
dans
moi.
Le fond, vous êtes pas plus smart que d'autres. Là.
Non.
Maintenant, vous le savez. Donc, votre fils a été quoi diagnostiqué à l'âge de
À l'âge de 20 mois.
20 mois.
Oui.
On apprend ça comment? On s'aperçoit de ça comment, cette maladie-là?
En fait, Arthur, la première année de sa vie, c'est comme c'était un bébé parfait. Là. C'était un bébé qui dormait bien, qui était capable de s'occuper tout seul. Puis nous, c'était notre premier enfant. On s'est pas rendu compte à ce moment-là que c'était aussi parce qu'il recherchait pas nécessairement l'interaction.
Mm-hmm.
Jusqu'à peu près son âge. Mais en fait, toutes ses étapes de développement, quand on allait voir son médecin, tout était correct, tout était beau. Jusqu'à ce qu'il y ait 12 mois, entre autres à son anniversaire, il y avait un autre petit garçon qui était du même âge. Puis clairement, le fonctionnement était pas le même.
Mm-hmm.
Le contact visuel était pas le même. Arthur, il a jamais fait d'imitation, de bravo, de babaye, il a jamais pointé. Donc, c'est toutes des petites choses qui se sont mises à comme s'accumuler.
Puis, mais graduellement ou assez rapidement quand même?
En fait, c'est à partir du moment qu'on commence à les voir qu'on a l'impression là, qu'ils s'accumulent, mais qu'ils étaient probablement déjà hein? présentes, mais plus... donc,
OK, c'est quand ils sont réunis finalement qu'on s'aperçoit
qu'on s'en rend compte. Puis le langage aussi, en fait, il y avait un retard de langage qui était quand même assez important, mais les gens à qui j'en parlais ou ma famille osait pas trop, mon chum me disait, bon, t'as un souci de performance pour notre fils, laisse-le tranquille, ouais. Tu vas voir, les petits garçons, ça prend plus de temps. Puis vers 14-15 mois, je suis allée voir son médecin de famille en lui disant, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, là. Rassure-moi ou enligne-moi sur quelque chose. Mm-hmm. Peux-tu vérifier ses oreilles? Il se retournait pas à son nom. Puis finalement, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que oui, il avait des otites. Il a été opéré. Il s'est mis à dire maman, papa. On s'est dit, bon, ça y est, tout est réglé.
Tout va bien.
Mais entre-temps, on avait quand même une référence qui était en attente pour en clinique de développement. Rencontrer un pédiatre spécialisé dans les retards de développement qui, elle, en fait, quand on l'a rencontré, nous a dit « Je vais faire le dépistage que je fais pour tous les petits garçons qui ont un retard de développement parce qu'il y a un retard de développement global qu'elle voyait chez lui. » Mais elle m'a dit « Bon, je vais faire tous les dépistages que je fais habituellement, mais probablement que j'aurais pas besoin de vous revoir, puis que donc puis aussi le fait que comme j'étais enceinte à ce moment-là quand on l'a vu, entre autres le syndrome X fragile, comme la transmission est 50% à chaque grossesse. Donc, elle souhaitait dépister ça pour qu'on sache rapidement, en fait.
Mm-hmm. OK, mais là, on l'a diagnostiqué. Là, on vous a expliqué qu'est-ce que c'était, mais...
En fait, on avait quand même lu... Moi, je suis médecin d'urgence. Donc j'avais quand même... à partir du moment où j'ai vu qu'est-ce qu'elle faisait comme test, je suis quand même allée faire mes recherches. Puis ça a pris 3 semaines avant qu'on ait les résultats des prises de sang une fois que ça a été fait. Puis on n'avait pas les résultats. En fait, c'était à force. Je rappelais au laboratoire parce que là, je voyais que j'approchais de ma 21e, 22e semaine de grossesse. Puis là, je me disais, si c'est ça, il va falloir qu'on prenne une décision aussi, ou en tout cas, au moins qu'on sache.
Parce que vous deviez décider si vous alliez garder le deuxième enfant ou pas, là, en sachant qu'il pouvait être atteint.
En sachant ce que c'était à ce moment-là. Donc, on l'a su, j'avais à peu près 21 semaines de grossesse. Puis à ce moment-là, on a su aussi que c'était une fille et qu'elle avait la pré-mutation. Donc, elle ne développerait pas le syndrome complet comme notre fils, mais qu'elle serait comme moi.
Vous avez votre fille maintenant qui va bien.
Oui,
quel âge?
3 ans et demi.
Bon, les symptômes, c'est pas systématique, j'imagine.
Non, en fait, c'est un spectre. Donc, ça peut être vraiment de toutes les sévérités. Mais ce qui est le plus constant, c'est la déficience intellectuelle. Donc, à peu près plus que 80% des petits garçons qui sont atteints de la mutation complète vont avoir de la déficience intellectuelle de modérée à sévère. Les filles, ça peut aller de la déficience légère. Il y en a qui l'ont aussi modérée, puis des troubles d'apprentissage. Sinon, il y a de l'autisme.
Ouais.
Il y a 30% des X fragiles, en fait, qui ont vraiment les critères pleins pour vraiment avoir un diagnostic d'autisme. Il y en a 30% de plus qui ont des traits autistiques. Donc, 60% de ces enfants-là, il y en a 30% qui ont d'épilepsie. Il y a plusieurs choses qui viennent avec ça.
Mais est-ce que ça peut, si vous me posez l'expression, être un melting pot sur la même personne aussi?
Oui, tout à fait. Ouais. On peut avoir un petit peu de tout.
OK. Dans le cas de votre fils, donc, c'est quoi? Il y a
la déficience intellectuelle
qui,
pour le moment, est évaluée à modérée, mais c'est difficile à dire parce qu'il y a quand même 5 ans et demi. Puis, les échelles de quotient intellectuel sont pas tellement adaptées pour ces enfants-là qui sont pas capables. En fait, il y a beaucoup d'hyperactivité aussi chez troubles d'attention puis d'hyperactivité. Ils sont pas capables de rester assis puis de faire ces tests-là. Donc, c'est difficile à... Donc, on le fait selon leur fonctionnement un peu global. Donc, Arthur, il y a ça, puis il y a un trouble envahissant du développement, donc un autisme, mais un trouble envahissant du développement non spécifié. Donc, plusieurs traits autistiques, mais pas franchement autiste.
Bon, on comprend que comme parent, là, c'est un défi de taille. Là. Quand on reçoit ce genre de diagnostic-là, puis qu'on voit où ça mène l'enfant, là, c'est parce que vous dites que vous avez dû faire un deuil là, sur vos projets futurs. C'est pas comme ça, évidemment, quand on est parent ou qu'on veut devenir parent, qu'on envisage la paternité ou la maternité. Là.
En fait, moi, je m'étais jamais posé la question si l'enfant que j'allais avoir allait parler un jour, allait être propre, allait faire son primaire. Hein. C'était comme...
Un automatisme.
Ben, c'était comme évident. Là. C'était pas quelque chose à laquelle on avait même réfléchi, en fait. Là. J'avais jamais considéré aussi le fait que je pouvais être... avoir une anomalie génétique. Là. Je m'étais jamais vraiment posé la question.
Non, c'est pour les autres.
Pas juste ça. C'est qu'en fait, j'ai pas de symptômes. J'ai pas rien. J'ai un fonctionnement normal. J'ai jamais de problème à l'école. Donc, je me suis jamais vraiment posé la question. Puis, il y a personne qui en avait eu dans la famille non plus. C'était une transmission silencieuse jusqu'à temps qu'il y en a un premier qui développe la mutation. Donc, une fois qu'on le sait, on dépiste la famille. Puis, donc, ça vient de moi. Ma sœur est porteuse aussi, mon père est porteur, ma grand-mère paternelle. Là, au-dessus de ça, on sait pas, on peut pas tester plus que ça.
Ça a quoi comme conséquence au niveau personnel? C'est-à-dire que est-ce que je vais tomber dans les clichés, là, mais je peux pas faire autrement? Est-ce que on peut se sentir coupable, responsable?
C'est sûr.
Est-ce que ça amène des discussions des fois avec le conjoint?
Ça amène beaucoup de discussions.
Ouais, j'imagine, ouais.
Mais en fait, c'est comme, c'est pas quelque chose qu'on savait, là. Donc, j'en suis rendue après. En fait, nous, c'est arrivé le 8 février 2010. Là, la date est à jamais marquée pour nous. Là, mais on a évolué depuis ce temps-là. C'est sûr que ce poids-là, je sais très bien qu'il n'y a rien que je pouvais faire pour prévenir ça. C'est arrivé. C'est...
Qu'est-ce que ça change quand on a un autre enfant après ça? Est-ce que ça nous ça change la perspective dans la façon d'élever son deuxième enfant ou
Ben oui, en fait.
En tout cas, c'est certain que dans la dynamique, ça change quelque chose
clairement,
à la maison.
Puis, là, en ce moment, on le voit beaucoup parce que Alice, notre fille, elle parle déjà beaucoup. Ouais. Alors qu'Arthur, ça commence tranquillement. Il y a peut-être une cinquantaine de mots qu'il utilise, pas toujours de façon dans le bon contexte, mais uh-huh. Il y a quand même 50 mots qu'il est capable de dire. Mais elle lui montre tellement de choses. Elle a tellement une maturité importante pour une petite fille de son âge.
Ah,
elle va lui changer ses couches. Elle va essayer de lui donner son bain. Elle va aller lui chercher des choses. Elle va lui montrer. Arthur fonctionne beaucoup avec...
La protectrice.
C'est la grande sœur, en fait.
À 5 ans.
Elle a 3 ans et demi, c'est vrai.
À 3 ans et demi?
C'est elle qui...
C'est vrai, ouais. C'est lui qui...
C'est elle qui s'occupe de lui.
Aïe, aïe. C'est mature, pas à peu près, ça, à 3 ans.
C'est très mature, là. Mais en même temps, on se sent aussi coupable par rapport à ça parce qu'on se dit...
pas d'enfance.
On pourrait faire plus. On pourrait jouer plus avec elle. On pourrait faire des voyages avec elle. On pourrait... Ouais. Mais, je veux dire, elle va gagner quelque chose aussi, là, de...
Mais est-ce que c'est des choses à exclure totalement, par exemple, des déplacements avec lui ou
Non, en fait, je dirais pour le moment, on a quand même quand il était tout jeune, on a voyagé beaucoup avec lui avant qu'on sache quand il était tout bébé. Mais c'est sûr que l'hyperactivité est quand même un frein important. Puis en fait, on n'était pas prêt. En fait, on se disait toujours. Si on le sent pas, je vois pas pourquoi on forcerait nécessairement juste pour dire qu'on l'a essayé. Là, à un moment donné, il faut savoir aussi reconnaître où on en est rendu dans notre cheminement. Mais là, je pense qu'on on va l'essayer. En fait, on s'est dit qu'on prendrait l'avion, on reprendrait l'avion avec lui sur un petit vol, mettons comme Toronto, juste pour pas passer de douane, essayer. C'est notre prochain test. Mm-hmm.
Mais jusqu'à quel point la communication se fait bien avec lui? Là? Il comprend
il,
bien?
Il comprend beaucoup plus de choses maintenant. Mm-hmm. Les consignes, même les consignes un peu plus complexes, il va bien les comprendre. Puis pour s'exprimer, c'est beaucoup plus clair parce que en fait, il va soit aller chercher des choses ou il va utiliser des pictogrammes. Donc, mm-hmm. Il comprend plus les photos que les dessins. Donc, on prend des photos, puis on a un horaire avec un velcro qu'on lui met l'ordre de la journée, mais qu'il connaît très bien. Puis, il utilise une espèce de grosse horloge qu'on appelle un tam-tamer, en fait, parce qu'ils ont de la misère à se situer dans le temps. C'est la même chose pour les enfants autistes. Beaucoup d'enfants qui ont une déficience aussi. Donc, si, mettons, on mange, ben on prend la photo d'Arthur qui mange.
Ah, okay.
On le met là-dessus, puis ben on le met, 15 minutes. Il mange très vite. Uh-huh. Donc, on met le 15 minutes. Puis
ça fonctionne bien. Le système digestif fonctionne très bien.
Bon, il mange vraiment, vraiment beaucoup.
Ah, ouais.
Non, ça fonctionne très bien. Donc, il a commencé l'école, il a commencé la maternelle.
Uh-huh.
Et on l'avait inscrit, il était à Anne-Hébert, qui est notre école de quartier, mais qui est aussi l'école qui a le mandat régional pour la déficience intellectuelle. Il est du côté du secteur particulier, donc du secteur de déficience, mais avec ils sont très ouverts en fait à toutes les possibilités. Puis le but c'est de l'intégrer progressivement avec un accompagnement. Là, du côté régulier, il sera probablement pas capable de le faire à temps plein, mais là on est rendu à 16 minutes par jour dans la classe de maternelle régulière.
Mm-hmm.
Le résultat est.
Je sais que certains ont des problèmes cardiaques ou peuvent développer des problèmes cardiaques. Est-ce que c'est son cas?
En fait, on sait pas encore. Ils peuvent développer jusqu'à 50% qui développent un prolapsus mitral, qui est comme une incompétence d'une valve du cœur, mais qui est somme toute relativement bénin là, comme problème, sauf si ça décompense en fait. Là,
mm-hmm.
Mais en général, c'est pas un problème. Mais non, il faudrait qu'on puisse faire une échographie cardiaque, ce qui pour le moment.
Est-ce que question un peu drôle, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent se poser la question. Le fait d'être médecin, est-ce que ça change quelque chose quand on reçoit une nouvelle comme ça? Parce que évidemment, on a l'image, puis en plus vous travaillez à l'urgence. Alors on a l'image du médecin qui est toujours rationnel, calme, qui annonce ce genre de choses-là souvent. Et maintenant, dans ce cas-ci, ben vous faites annoncer. Une chose comme ça, là, c'est le parent, là, c'est plus le médecin, là.
Ah non, c'est plus le médecin, mais c'est aussi le fait que c'est complètement hors de mon champ de compétences.
Ouais.
C'est moi, je suis à l'enfant Jésus, je fais de la traumatologie, je fais de la neurologie, je fais pas de pédiatrie. Là,
ouais.
Maintenant, j'en fais avec Arthur, mais
ouais.
J'en faisais pas.
À domicile.
J'en faisais pas à ce moment-là, mais en fait, moi, mon c'est sûr que mon background scientifique fait en sorte que puis même mon conjoint qui est un artiste, qui a pas du tout ce background-là, nous, notre façon de gérer ça, ça a été d'aller chercher de l'information. Mm-hmm. En fait, d'avoir le plus d'informations possible sur c'était quoi, qu'est-ce qui se passait, d'aller chercher d'autres associations de parents pour pas se sentir tout seul, mais aussi pour aller vraiment chercher la science. Là. Mm-hmm. Puis c'est là qu'on a découvert, en fait, l'association américaine qui s'appelle FRAXA, qui sont un groupe de parents qui ont créé ça. Leur enfant, maintenant, a 24 ans. Puis, c'est orienté vers une cure. Parce qu'en fait, l'extragile, c'est probablement la première maladie génétique, la première cause de déficience intellectuelle qu'on va peut-être être capable de renverser, en fait.
OK.
Parce qu'on sait exactement quel gène est le problème, quelle protéine.
Contrairement à d'autres maladies, on a identifié des choses bien précises.
En fait, le décodage du gène dont Gail parlait en début d'émission, nous, il est complètement fait pour la maladie. Okay. Puis on sait exactement qu'est-ce que ça a comme effet au niveau du cerveau. C'est un peu comme si, mettons, les diabétiques qui manquent d'insuline, ben moi, le cerveau d'Arthur, il manque de FMRP. Si j'étais capable d'y en injecter, ben, mm-hmm. ça réglerait la question. On n'est pas capable, c'est toxique. Ils l'ont essayé chez le modèle animal. Par contre, on sait que dans leur cerveau, il y a comme... Je vais essayer de résumer ça, mais il y a une surexcitation. Il y a trop de protéines dans leur cerveau. Okay. C'est un cerveau qui a besoin de freins. Il aurait besoin de dos d'âne pour réglementer la circulation dans leur cerveau. Ça va trop vite. Mm-hmm. Donc, soit qu'on y va en amont en essayant de réduire cette production-là, ce qui est particulièrement difficile pour aller où on peut bloquer les récepteurs. C'est là-dessus qu'ils travaillent en ce moment. Mm-hmm. Donc, on est rendu en fait à un stade où les études cliniques se font chez l'humain, chez les adolescents. On commence chez les enfants. Les grandes compagnies pharmaceutiques comme Diagil commencent à s'intéresser à ce genre de maladie-là, particulièrement l'extragile, parce que ça va servir de modèle pour l'autisme. Puis on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont diagnostiqués, puis qu'il n'y a pas d'explication sur la cause, puis qu'il n'y a pas... Donc, si la théorie est que si on trouve quelque chose pour l'ex-fragile, ben ça va peut-être être applicable soit à l'entière population des enfants autistes ou à une sous-population. Donc, il y a de l'argent à faire avec cette population-là.
Donc, qui dit argent, dit...
Compagnie pharmaceutique.
Ouais, ça peut.
Sans insulter.
Non.
Mais c'est vrai. Je veux dire, donc, ça sert de modèle. Ça sert aussi de modèle, en fait... quand ils ont réussi à dériver pour l'Alzheimer, le Parkinson, la schizophrénie. Il y a plusieurs maladies comme ça qui se regroupent dans leur fonctionnement puis pour qui ça pourrait s'appliquer. Donc, on est comme dans le domaine hot de la recherche en ce moment. Mm-hmm. Fragile, c'est
bonne
là,
nouvelle.
C'est le, en fait, il faut qu'on voit les bonnes nouvelles où on peut, où on peut les trouver, là. Mais donc, nous, ça a été ça, notre réaction. Ça a été,
est-ce que, au-delà de ça, là, il peut avoir une évolution quand même dans son développement, là?
Oh, oui.
Là, il y a quoi? Il y a 5 ans.
Il y a 5 ans et demi. Okay. En fait, juste, si on voit, moi, je parlais justement cette semaine avec son éducatrice spécialisée à l'école parce qu'il y a tout le temps quelqu'un avec lui. Mm-hmm. Elle dit depuis septembre, c'est pas le même petit garçon. C'est sûr qu'il prend quelque chose depuis le mois de novembre, il prend une médication pour son hyperactivité. Mm-hmm. Ça a fait une grande différence au niveau du fonctionnement à l'école. Puis il a commencé à parler, il commence à essayer d'aller à la toilette, il fait des tâches plus complexes, il a vraiment, vraiment beaucoup progressé, là.
Est-ce que vous avez l'occasion de rencontrer d'autres parents, d'autres familles dont les enfants ont cette maladie-là? Parce que là, je crois comprendre qu'il n'y en a pas énormément au
Québec.
En
fait, c'est 1 sur 4 000 petits garçons, puis 1 sur 6 000 au niveau des petites filles. Uh-huh. Oui, en fait, nous, quand on a su, en fait, comme je disais, notre but d'aller chercher l'information, la recherche, mon conjoint a fait un blog.
Oui. On a mis le lien en passant sur notre page Facebook pour les gens qui voudraient en savoir plus.
Puis après ça, on s'est dit, en fait, la façon la plus facile une des façons les plus faciles, c'est d'être par Facebook. Donc, on a créé le groupe Extragile Québec sur Facebook. Et avec ça, on a réussi vraiment à avoir plusieurs familles qui s'impliquent de partout au Québec, mais aussi de la francophonie. On a commencé à tisser des liens avec Extragile France, Extragile Belgique, Espagne, Portugal, pour justement mettre toutes les ressources en commun, parce que la communauté anglophone, américaine, canadienne, anglaise sont beaucoup plus organisées, beaucoup plus au fait de la recherche, tout tandis que on était un peu les parents pauvres du côté francophone. Donc, mm-hmm. on travaille beaucoup là-dessus, mais on organisait entre autres l'association des parents d'ex-fragiles a créé un premier pique-nique l'année dernière au mois d'août. Mm-hmm. Puis on était une quarantaine de familles, si je me trompe pas, à Montréal.
Quand même, c'est pas mal.
Ça faisait du bien, en fait, de se retrouver avec... Puis de
des
voir...
gens qui vivent le même genre de choses que
exactement,
que vous,
même si ça peut être à différents degrés de sévérité, c'est quand même des gens qui comprennent exactement ce qu'on vit. Puis
j'avais envie de poser la question, là, puis je vais peut-être la poser à Denis aussi. Là, est-ce que vous considérez que vous pourriez avoir plus d'aide un peu, là, parce que j'imagine que au niveau organisationnel, c'est pas évident là, quand les deux parents par exemple travaillent, puis c'est parce que c'est très demandant, ça,
c'est,
j'imagine.
C'est très demandant, en fait. Le problème, souvent, c'est... En fait, Arthur, il y a comme un... Là, c'est moins pire depuis qu'il est à l'école, mais il y a comme un horaire de premier ministre. Là, il y a des rendez-vous à physio, en ergo, en orthophonie, en ci, en ça. C'est ça qui est demandant aussi. Ouais. C'est d'être disponible tout le temps pour une rencontre à 10 heures le matin. Donc, en fait, moi, mon horaire permet que je peux travailler de jour, de soir, de nuit, hein, ce qui est un des avantages pour certains, mais dans ce cas-là, c'est un avantage.
Ouais, c'est ça.
Et mon conjoint est à la maison.
OK.
Donc, nous, on réussit à s'organiser quand même assez bien. Puis, on a réussi à aller chercher les services. C'est sûr qu'il faut, c'est un combat quotidien, mm-hmm. d'aller chercher les choses, puis de s'informer. C'est aussi pour ça qu'on a créé l'association. C'est pour guider les parents qui avaient un nouveau diagnostic ou qui cheminaient à travers ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus d'heures? Mm-hmm. Parce que si on regarde, mettons, quand on a eu notre diagnostic, on était étiqueté comme une déficience intellectuelle.
Okay.
Donc, avec ça, on avait 1h30 à toutes les 2 semaines par le CRDI qui venait à la maison. À ce moment-là, il n'était pas en garderie. On est...
Une heure et demie, c'est pas...
Il ne la reconnaissait pas à chaque fois qu'elle venait. Il se sauvait. En allant chercher un diagnostic d'autisme, on est monté à 12 heures semaine. Donc, pour nous, c'était ça la voie d'avoir plus de services. Mm-hmm. Mais ça, moi, si je l'avais pas su, si j'avais pas fait les recherches pour ça, j'aurais jamais.
Donc, il y a un manque d'information, peut-être.
Il y a un manque d'information. En fait, c'est effectivement. En fait, quand on a le diagnostic, il y a comme un trou noir où on attend des services qui peut aller jusqu'à 3 mois par la prise en charge par le CRDI, qui est le Centre régional de déficience intellectuelle, qui s'occupe des enfants autistes puis des enfants déficients aussi. Puis il y a un trou noir. En fait, on est en attente. Fait qu'il faut pas avoir peur d'aller cogner aux portes puis de faire les démarches soi-même. Faut pas attendre d'avoir des offres de services. En fait.
Parce que là, je vois que la définition de la maladie peut changer bien des choses au niveau de l'aide accordée.
Extrêmement.
Fait que j'ai envie de demander à Denis, vous autres, est-ce que vous avez de l'aide, Denis, dans le cas de votre fille, ou vous devez vous débrouiller seul?
En fait, on en a eu quand on est sorti de l'hôpital, parce que elle marchait pas, elle parlait pas, elle mangeait pas, donc elle avait besoin de traitement rapidement et intensif. Ouais. Parce qu'apparemment, en sortant d'un coma, on a jusqu'à 6 mois pour remettre quelqu'un sur le piton. Là,
sur pied.
Le plus qu'on peut.
Ouais.
Fait que là, c'était physio, ortho, ergo à temps plein, 5 jours semaine. Je faisais tout ça en voiture.
Mais à domicile, est-ce que vous avez de l'aide? Vous avez eu de l'aide ou pas du tout? Pantoute?
Pas vraiment.
OK. Parce que j'écoutais Geneviève là, qui dit, bon, la définition de la maladie peut faire en sorte qu'il faut avoir de l'aide ou pas. Puis dans votre cas, il n'y en a pas de diagnostic.
C'est exactement comme elle expliquait. Quand on n'a pas de nom, on n'a comme pas de service. On a de la difficulté. On s'est fait transférer de généticien parce que la généticienne qu'on avait au CHU, elle a dit, la dernière fois qu'on l'a vue, elle dit, je suis obligé d'arrêter ça là. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, toutes les recherches que j'avais à faire. Okay. On s'est fait transférer au Children's Hospital à Montréal, puis ça fait 2 ans qu'on n'a pas de nouvelles.
OK. Merci Geneviève. Je veux juste dire, effectivement, rappeler qu'on a mis le lien du blog en question là, sur notre page Facebook, Le Chaud Temps, pour les gens qui veulent. Qu'est-ce qu'on trouve sur le blog?
En fait, toutes les dernières recherches, vraiment les pistes, le lien pour la clinique extragile de Sherbrooke, le lien pour l'association de parents, le lien pour la page Facebook.
Est-ce qu'il y a une région où il y a plus de victimes de ce syndrome-là?
Non, n'importe qui. C'est égal partout.
OK, pas de discrimination géographique finalement?
Non,
pour ça.
Pas de discrimination. C'est sous-diagnostiqué encore maintenant. Là, parce qu'en fait, dès qu'on a un enfant qui a un retard de développement ou qui a un peu qui a des traits autistiques ou de l'autisme, on devrait penser à dépister les extra-gels. C'est une prise de sang. Là.
C'est pas systématique?
Pas systématique. Pas encore. Il faut avoir accès à des ressources spécialisées comme nous, on a eu accès à un pédiatre en trouble de développement. Mais si mon médecin de famille était comme moi, là, moi, j'avais jamais entendu parler de ça.
Et on parle à un médecin quand même. T'sais, ouais. Alors imaginez que nous autres, on connaissait pas ça non plus. Hein. OK, on va faire une pause. Juste avant, je vous offre d'aller voir le film 300, la naissance d'un empire, l'expérience IMAX 3D, qui est présenté dès le 7 mars au IMAX des Galeries de la Capitale. Alors au 670-9098, 670-90-98, on vous offre un accès pour deux personnes pour l'avant-première qui sera présentée le 5 mars au IMAX. Je veux juste rappeler aux gagnants que c'est pas nécessaire de venir à la station. Le nom de la personne gagnante sera sur la guest list. La représentation est à 19h. C'est mercredi le 5 mars, je vous le rappelle, au IMAX des Galeries de la Capitale. Alors, 670-9098, 670-90-98. On va prendre l'appel numéro 6. Bonne chance!
Le show d'art avec Mario Tremblay. Le show d'art.
Radio X. Pendant toute la saison de la LNH, participe au pôle hebdomadaire de hockey rêve sportif Radio X.
Radio X.
Fais ta prédiction selon la question de Vince. En plus, c'est gratuit. Encore plus, un cadeau à gagner à chaque semaine parmi les bonnes réponses. Écoute les sports de Vince ou visite radiox.com pour connaître la question de la semaine. Collaboration rêve sportif, la référence dans le domaine de voyage sportif. Visite le www.rêvesportif.com pour consulter leur calendrier.
Radio X.
Une grippe ou une tempête, ça finit par passer. Pas vos problèmes financiers. Chez Jean Fortin et Associés, nous trouvons des solutions aux problèmes d'argent depuis 30 ans. Visitez-nous à jeanfortin.com et prenez rendez-vous. C'est gratuit et confidentiel. Posez le premier geste. Nous ferons le reste.
Le tout nouveau chandail. L'aventure du Pont le Midi. Enfin disponible à la réception ou via la boutique en ligne de RadioX.com. RadioX.com. Sont beaux, confortables, sexy comme Dupont, mais encore mieux. Et pas cher en plus. Seulement 15$. Disponible du format Marie-Pierre jusqu'au format Steph Dupont. Dupont. Entrez enfin dans la légende.
Wow, il y a donc même de la place dans Dupont. Eh oh! Oh, ça sent donc bien le fond de tonne.
Radio X.
L'euphorie.
Steak frites.
L'euphorie.
Steak frites.
L'euphorie.
Steak frites et compagnie, parce que les steak frites sont à moitié prix le mardi.
OK, j'embarque.
L'euphorie. Ou steak frites et compagnie, deux menus, deux ambiances, un seul restaurant. 850 Pierre Bertrand.
Le temps des sucres, c'est l'érablière Saint-Étienne.